inspiration de la parole de Dieu. Selon le plan qui nous a été remis, ce chapitre sera divisé en inspiration de la parole de Dieu, ce qu'elle est, puis l'autorité de la parole de Dieu et enfin la puissance de la parole de Dieu. L'inspiration de la parole de Dieu. Lisons tout d'abord trois passages. Le premier, dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Et puis, dans 2 Pierre, au chapitre 1er, le verset 21, la seconde partie du verset qui nous est proposé. 2 Pierre 1, verset 21, seconde partie. De saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Et un troisième témoignage, celui de David, en 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue. L'inspiration de l'Écriture se fonde, pourrait-on dire, sur deux principes différents. Premièrement, l'inspiration n'a pas pour effet de modifier la personnalité de l'instrument dont Dieu se sert pour communiquer ses pensées. L'inspiration ne fait donc pas des instruments, des automates qui perdent leur personnalité et qui au fond ne savent pas très bien ce qu'ils disent. Ce n'est pas du tout cela. Elle n'exclut absolument rien de leur individualité. Elle n'exclut pas davantage l'exercice de leurs facultés et le style et la manière dont ils s'expriment leur sont propres. Quand on lit dans l'Écriture, on distingue tout de suite, enfin tout de suite si nous la connaissons, cela va de soi, quand c'est David qui parle, quand c'est Moïse qui parle, quand c'est Jean qui parle, Luc a un autre style, Paul a une manière de s'exprimer totalement différente de celle de Pierre, et c'est ce kaléidoscope de la perfection divine, dans la multitude des instruments dont il se sert, qui donne, pas exclusivement, mais pour une bonne part, la puissance à la parole ainsi inspirée, sa vigueur, sa diversité et aussi son unité. Pourquoi ? Parce que c'est dans tous ces hommes l'Esprit Saint qui les dirige, qui les enseigne et que nous allons le voir, qui leur donne même les paroles par lesquelles ils doivent s'exprimer. Le deuxième principe de l'inspiration, qui découle du premier d'ailleurs, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a infailliblement guidé tous les instruments dont il s'est servi pour écrire la Sainte Parole de Dieu. Et notre frère M. Darby dit même qu'il les a inspirés dans le choix des mots eux-mêmes, pas seulement dans les pensées, mais ils se sont exprimés dans les termes que l'Esprit leur a suggérés, leur a communiqués. De sorte que nous pouvons avec joie faire abstraction de toutes les doutes de la chrétienté, et particulièrement des théologiens, qui disent « oui, c'est bien » inspiré dans la pensée, mais pas ce mot. Ce mot n'est pas inspiré. Et quand on ouvre la porte à un tel doute, on nie de fait l'inspiration. Pensée et parole sont inspirées, c'est-à-dire communiquées de Dieu. Je lis rapidement un verset sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui confirme ce que nous venons de dire en 1 Corinthiens 2, les versets 12 et 13. « Les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles nous parlons en parole enseignées de l'Esprit. » Je n'y arrête pas davantage, nous y reviendrons plus tard. Nous passons maintenant au processus de l'inspiration. Comment est-ce que cette inspiration se déroule pour arriver au but que Dieu s'est proposé, c'est-à-dire nous communiquer sa pensée à nous, êtres humains, avec toutes nos faiblesses, mais qui possédons l'Esprit Saint. Nous lisons alors dans ce chapitre 2 de la première aux Corinthiens, dont j'ai tiré tout à l'heure ce verset, 1 Corinthiens 2, verset 7, « Nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. » Premier point. Nous avons là, pour ainsi dire, comme la substance infinie, divine, des pensées que Dieu va révéler en son temps par l'instrument ou les instruments de son choix. C'est ce que l'apôtre appelle cette sagesse. Cette sagesse de Dieu, sagesse cachée, que Dieu avait préordonné avant les siècles. Il est très remarquable de constater que dans de nombreux passages, et surtout sous la plume inspirée de l'apôtre Paul, nous est rappelé à réitérer reprise que toutes ces révélations qui nous ont été faites en leur temps étaient depuis l'éternité. Nous dirions l'éternité passée, ce qui n'est pas exact, puisque l'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais enfin, c'est un mode d'expression pour comprendre la chose. Dieu avait arrêté par-devers lui, de toute éternité, les vérités glorieuses, essentielles, quant au salut, quant à la foi, quant à la rédemption, quant à notre filiation divine, quant à l'espérance de la gloire. Cet ensemble constituait ce que l'apôtre appelle ici la sagesse de Dieu en mystère, cachée, mais que Dieu avait préordonnée avant les temps des siècles. C'est le point de départ. On pourrait dire, si, en m'exprimant d'une manière un peu simpliste, qu'il y a là un ensemble, une collection, une provision infinie de vérités merveilleuses que Dieu avait de toute éternité préparées. Préparé pour nous les révéler. Et cela nous amène au second point de ce processus de l'inspiration, c'est le verset 10 de notre chapitre. Dieu nous l'a révélé par son esprit. Dieu nous l'a révélé par son esprit, ce que nous avons déjà dit. Dieu ne s'est pas servi d'un autre instrument, si je puis m'exprimer ainsi, que l'Esprit de Dieu même, qui, agissant dans un homme, va permettre cette communication, cette révélation des pensées de Dieu, qui constitue ce mystère de toute éternité. Et puis, nous l'a révélé, verset 12, au milieu du verset, « Afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. » Ces choses dont je viens de parler, qui constituent ce merveilleux trésor, Dieu va nous les faire connaître. Et il nous les fait connaître, nous l'avons dit, par son esprit. Voilà le troisième point, si l'on peut dire, de ce processus de l'inspiration. Dieu nous fait connaître ces choses qui nous ont été données librement par lui. Un don absolument gratuit, libre, communiqué par la puissance du Saint-Esprit, par la lumière du Saint-Esprit. Et nous passons au verset 13, où nous trouvons l'étape suivante de ce processus. desquels aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit. Voilà de nouveau confirmé ce que nous rappelions tout à l'heure, c'est que Dieu nous a communiqué ces choses par son Saint-Esprit, en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Paroles enseignées et communication de ces pensées divines par le Saint-Esprit et non pas par des moyens humains ou d'autres moyens quelconques, mais seulement par l'Esprit, moyens spirituels. Et puis au verset 15, celui qui est spirituel discerne toute chose. Ces paroles ne peuvent s'adresser qu'à celui qui est spirituel, qu'à l'homme spirituel. Et nous avons la pensée, si je puis dire, négative, ou le contraste de ce que nous avons au verset 15. Dans le verset 14, où l'apôtre peut dire que l'homme animal, c'est-à-dire qui n'a que son âme, son intelligence, mais qui n'est pas renouvelé, qui ne possède pas le Saint-Esprit, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Je ne sais pas si vous avez, dans vos relations avec les hommes de ce monde, eu l'occasion de présenter l'Évangile. Je me rappelle un cas, j'intercale rapidement ce petit récit, où, parlant de ces choses à un homme politique assez important dans notre pays, il a tiré cette conclusion de ce que je lui disais: « Je ne puis pas croire à des choses qui sont en contradiction avec l'intelligence que Dieu m'a donnée. » Voilà l'homme naturel, voilà l'homme animal, un homme remarquable à tous égards, mais qui se fonde sur son intelligence pour juger de la parole de Dieu. Alors il n'y comprend rien. Elles lui sont folies. C'est tragique, parce que tant qu'il n'y a pas eu cette révélation, ce salut, cette nouvelle naissance qui va nous communiquer le Saint-Esprit, nous restons des aveugles, des sourds, incapables de recevoir la pensée de Dieu. Je pense que vous aurez eu l'occasion d'en faire l'expérience vous-même. Voilà le processus. Nous passons maintenant à quelques considérations sur le témoignage que le Seigneur et les apôtres ont donné de l'Écriture. Pour le Seigneur Jésus, comme pour les apôtres, qui avaient l'Ancien Testament, ne l'oublions pas, pas encore le Nouveau, l'Ancien Testament est d'une manière absolue la pleine et entière révélation de la parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Et on peut dire que ce témoignage, tant du Seigneur Jésus que des apôtres, que l'on retrouve dans plusieurs passages, nous en citerons quelques-uns tout à l'heure, établit pour nous, croyants, l'autorité de cette parole. Nous y reviendrons encore. Puisque le Seigneur Jésus, comme les apôtres, se sont fondés sans aucune hésitation quelconque sur les déclarations de l'Écriture, et c'est tellement touchant de voir le Seigneur Jésus qui, jusqu'à la fin des heures de la croix, durant toute sa carrière, mais jusqu'au terme de son œuvre à la croix, avait ce souci d'accomplir les Écritures. Et nous connaissons cette dernière parole, ou avant-dernière parole, « Afin que l'Écriture fût accomplie, Jésus dit, j'ai soif. » Eh bien, est-ce que ce premier témoignage du Seigneur Jésus ne devrait pas nous suffire à nous? Oui, il nous suffit. Il nous suffit pour étayer l'authenticité de l'Ancien Testament comme étant parole de Dieu. Encore un mot au sujet du Seigneur que je trouve dans mes notes. Le Seigneur, à plusieurs reprises, a dû recourir aux paroles de l'Ancien Testament pour confondre ses adversaires. Et il leur dit, n'avez-vous pas lu dans la loi? N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Nous trouvons cela en Matthieu 12, 19 et 21. Je ne vais pas lire les versets. Il leur montrait qu'ils se fondaient sur les Écritures. Qu'eux avaient ces Juifs savants, mais ils étaient tellement incrédules que on aurait pu penser qu'ils ne les connaissaient pas. Et de fait, ils ne les connaissaient pas. Quant aux apôtres, encore une fois, l'Ancien Testament est à la base de leur prédication. Je citerai rapidement ce que Pierre, Paul et Apollos ont dit, ou comment ils se sont servis de l'Écriture. En acte 2, je citerai, en acte 2, au verset 25 à 28, Pierre cite le psaume 16, du verset 8 au verset 11 de ce psaume, en l'appliquant à la résurrection du Seigneur Jésus. Il prend l'autorité, si je puis dire, de l'Ancien Testament pour confirmer et appuyer la vérité de la résurrection du Seigneur Jésus, s'adressant à des Juifs. Dans acte 17, au verset 2 et dans les versets suivants, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui, comme Pierre, se réfère à l'Ancien Testament en disant que d'après les Écritures, il fallait que le Christ souffrît ces choses et qu'il ressuscitât. De nouveau, l'autorité, la parfaite suffisance de l'Écriture pour établir cette vérité fondamentale de la résurrection. Et enfin, Apollos, en acte 18, au verset 28, démontre par les Écritures que Jésus était le Christ. Vous remarquez par ces trois exemples, on en pourrait citer d'autres, quelle puissance, quelle autorité possédait l'Ancien Testament, la parole écrite d'alors, pour les apôtres dans tout leur ministère. Ils se servaient, ils se fondaient sur cette parole. Nous passons au second point, l'autorité de la parole de Dieu. D'où procède cette autorité de la parole de Dieu? Eh bien, après ce que nous venons de dire, il est évident à souhait qu'elle procède du fait qu'elle est inspirée. Quand nous lisons la parole, nous prenons connaissance de la révélation de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et le fait que c'est Dieu qui nous parle confère à cette Écriture toute son autorité. Mais je cite ici une phrase de notre frère M. Darby qui ajoute « On ne connaît jamais l'autorité de la parole qu'en y croyant. L'autorité de Dieu n'est pas du ressort de l'intelligence humaine. Ce n'est pas par mon intelligence que je puis admettre l'autorité de tel ou tel passage. » Ce n'est qu'en la recevant par la foi que cette parole acquiert pour moi, subjectivement, toute son autorité. Et cela nous rappelle ce que nous disions tout à l'heure de l'homme animal qui est incapable de saisir les choses spirituelles. Et même un enfant de croyant qui a été élevé dans une atmosphère pieuse, qui a entendu la parole, on peut dire chaque jour, mais qui n'a pas reçu la parole de Dieu, qui n'a pas cru au Seigneur Jésus, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, n'ayant pas passé par la nouvelle naissance, est incapable de reconnaître l'autorité de la parole. Et alors il arrive ceci, c'est que, reconnaissant quand même que cette parole a du prix, a du poids, on s'efforce de la mettre en pratique, mais ce n'est pas par l'Esprit que la chose nous est donnée, alors on tombe sous la loi. C'est quelque chose de charnel, cela s'adresse à la chair, on fait des efforts pour faire ceci, ne pas faire cela, et il n'y a que la nouvelle naissance qui puisse nous rendre capables de percevoir l'autorité entière de l'Écriture et de la laisser agir dans nos cœurs. Un de nos anciens frères disait que ce qui distinguait le degré de piété entre deux croyants, c'était leur degré d'obéissance à la parole et à son autorité. Deux croyants appartenant au Seigneur, l'un qui se laisse conduire par la parole, Nous reviendrons sur ce fait de la parole, cette action de la parole. Mais l'autre qui connaît la parole, mais qui la connaît peut-être insuffisamment et qui surtout ne la met pas réellement en pratique, eh bien c'est là la source de toute la différence de la spiritualité entre ces deux croyants. Et cela est très solennel pour nous. Nous pouvons avoir la tête remplie de la parole, remplie de l'écriture. Nous pouvons citer par cœur des passages nombreux, mais si nous ne les mettons pas en pratique, si nous ne les vivons pas, eh bien la parole n'a effectivement plus son autorité sur notre marche. C'est pourquoi cette question de l'autorité de la parole revêt une importance pratique considérable pour nous. J'ai noté ici quelques témoignages attestant l'autorité de la parole. Nous avons le témoignage de Dieu lui-même par son esprit, et c'est notre frère M. Ladrière qui faisait remarquer comment Dieu aurait-il pu laisser à eux-mêmes les hommes qu'il appelait à écrire les Écritures et sa parole et ne pas les préserver d'erreurs. Il dit, cela répondrait-il au caractère de Dieu de bonté, du Dieu de bonté et de vérité, qui, s'il donne une révélation, veut assurément que nous l'ayons pure, sans mélange. C'est pourquoi il leur a donné, comme nous l'avons vu en Corinthiens 2, ses paroles par le Saint-Esprit. Et il termine en disant, Dieu a donc veillé à ce que nous ayons dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sa parole écrite, toute sa parole et rien que sa parole. Témoignage divin émanant de Dieu lui-même à l'autorité de sa parole. Le témoignage du Seigneur Jésus quant à l'autorité de la parole de Dieu, eh bien ce témoignage, on peut le dire, est irrécusable. Il recevait comme divin ou comme divine toutes les paroles contenues dans l'Écriture, dans les Écritures. Elles étaient pour lui l'autorité sans appel, et c'est bien pour cela qu'il s'y référait constamment dans ses entretiens avec les Juifs, pour les confondre, avec ses disciples, pour les enseigner, pour les encourager. Et nous le voyons même employer l'Écriture pour remporter la victoire, la scène de la tentation sur Satan. Nous les connaissons, ces passages, au début des trois évangiles. Je citerai seulement ceux de l'évangile de Matthieu, où il peut dire, il est écrit, il est encore écrit, va-t'en Satan, car il est écrit. Le Seigneur Jésus n'a pas employé d'autres armes contre l'ennemi que l'Écriture. Il aurait pu employer sa puissance divine, mais s'il était là comme homme totalement dépendant. Dépendant de qui? De Dieu. Conduit par quoi? Par la parole. Et c'est sur la base de la parole qu'il a remporté cette victoire sur Satan. S'il avait usé de sa puissance divine, eh bien cet exemple aurait été un exemple pour nous, mais ne nous aurait conféré aucune ressource, si je puis dire, parce que nous ne sommes pas dans la position du Seigneur, mais il était tellement homme qu'il n'a pas employé d'autre moyen que celui que nous pouvons nous aussi employer, la parole de Dieu. Mais pour pouvoir l'employer, il faut la connaître, il faut s'en nourrir. Si je ne connais pas la parole de Dieu, au moment où une tentation survient, je ne saurais pas puiser l'enseignement dans tel ou tel passage qui me serait nécessaire. Mais Dieu est fidèle et il ne nous abandonne pas. Il y a un autre témoignage de l'autorité de l'Écriture, c'est le témoignage des prophètes. Les prophètes, cela nous est rappelé dans notre feuille, qui assimilent formellement leur message écrit à la parole de Dieu. Ils en confirment l'autorité en répétant cette formule que nous connaissons bien, « Ainsi dit l'Éternel », ou bien « Écoutez la parole de l'Éternel », ou bien « La parole de l'Éternel vint à moi ». Ils se réfèrent toujours à l'inspiration divine des paroles qu'ils allaient prononcer au nom de Dieu. Et notre feuille nous dit que de telles expressions reviennent environ 3800 fois dans l'Ancien Testament. Et je crois que celui qui bat les records, c'est le prophète Jérémie, qui dit 430 fois, ainsi dit l'Éternel, ou la parole de l'Éternel vint à moi. Témoignage donc des prophètes à cette autorité de l'Écriture. Nous passons maintenant à la troisième partie de notre chapitre, la puissance de la parole de Dieu. Nous voulons lire un passage bien connu, mais auquel il fait toujours bon revenir, dans les Hébreux, au chapitre 4. Hébreux 4, ce verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Puissance de la parole, à laquelle rien n'est caché. Et nous remarquons ce transfert, si je puis dire, après avoir l'esprit, après avoir parlé de la parole, emploie tout d'un coup ce pronom « lui » masculin, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu qui nous parle. Et quand nous constatons que cette parole est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la jointure des moelles, etc., nous connaissons cette formule que nous venons de lire et qui exprime qu'elle intervient, qu'elle agit dans les profondeurs les plus grandes de notre être moral, eh bien c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère, c'est lui qui, par sa parole, accomplit cette œuvre de sanctification, cette œuvre par laquelle nous sommes éclairés par la parole de Dieu afin de nous y soumettre. Quelle est donc pour nous cette puissance? Cette puissance, nous pouvons la constater dans un certain nombre de secteurs. Tout d'abord, et notre feuille y insiste, sa puissance à salut. Lisons dans 1 Pierre 1, le verset 23. 1 Pierre 1, 23. Vous qui êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Et puis, dans Jacques 1, 18, et même au verset 21, il nous est dit, c'est pourquoi, rejetant toute saleté, tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Verset 18, de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Engendrés par la parole de la vérité, c'est la nouvelle naissance, l'opération de la parole appliquée à nos âmes, à notre être moral, par le Saint-Esprit. C'est cette nouvelle naissance dans laquelle la parole joue un rôle primordial. Nous trouvons par exemple un passage en Romains 10 au verset 17 où il nous est dit que la foi est de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. On reçoit la parole de Dieu en y croyant. Et elle nous communique la foi, c'est-à-dire la révélation des pensées de Dieu. Sa puissance pour la marche. Je citerai deux versets, psaume 119, le verset 11. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. Remarquons par parenthèse que ce verset se trouve dans un contexte parlant du jeune homme. Jeune, croyant, nous avons particulièrement besoin de cacher la parole dans nos cœurs, afin qu'elle y opère cette sanctification pratique dans notre marche. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. Et puis le passage bien connu de ce même psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon sentier. C'est elle qui éclaire. C'est la puissance de cette parole pour la marche du croyant. Et Remarquons encore que en Jean 13, lorsque le Seigneur a lavé les pieds des disciples, ce lavage symbolique nous parle de la parole qui ôte la souillure que nous pouvons contracter dans le chemin. Et le Seigneur en donne au verset 10 la confirmation en disant « Celui qui a le corps tout lavé, littéralement baigné, c'est-à-dire celui qui connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur, qui est un enfant de Dieu, n'a besoin que de se laver les pieds, parce que dans notre marche, nous sommes tous exposés à contracter quelques souillures, non pas que cela soit obligatoire, mais faute de vigilance, nous commettons des faux pas. » Eh bien, dans notre vie chrétienne, voilà de nouveau la parole qui déploie son effet, sa puissance en sanctification. Puissance pour la marche. Sa puissance, troisièmement, pour la croissance spirituelle. Je lirai, comme l'heure avance, le verset que j'ai noté de Jean 5, verset 39, où le Seigneur dit « Sondez les Écritures, car c'est elles qui rendent témoignage de moi. » Il adresse cette parole aux chefs religieux du peuple juif, mais il nous l'adresse aussi à nous. Et il nous l'adresse afin que nous connaissions toujours mieux sa parole. Ne pas être superficiel dans la lecture et l'étude de la parole, mais il faut sonder en profondeur. Alors nous la connaîtrons toujours mieux. Et de ce fait, notre croissance spirituelle sous l'action de la parole sera plus marquée, plus réelle. Jean 8, 31 et 32, le Seigneur dit « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Un quatrième effet de la puissance de la parole, c'est sa puissance contre l'ennemi. Nous avons déjà rappelé le Seigneur Jésus remportant la victoire sur Satan en se servant uniquement de la parole. Et comme je l'ai dit, c'est aussi l'arme qui nous est donnée. Nous la retrouvons, cette arme de la parole, dans l'armure complète de Dieu, d'Éphésiens 6, où l'apôtre dit « Prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » C'est la seule arme offensive de cette armure de Dieu, la parole, qui est une épée, l'épée de l'Esprit. Et que nous sachions en faire usage précisément dans nos combats, dans ce que nous avons à rencontrer de la part de l'ennemi, ici-bas. Et j'ajouterai peut-être encore un cinquième point montrant la puissance de la parole dans la joie qu'elle procure. Je lirai deux passages seulement, au psaume 119, au verset 162, où le psalmiste peut dire « J'ai de la joie en ta parole » comme un homme qui a trouvé un grand butin. La joie que la parole procure. Et puis ce verset qui a déjà été cité hier, en Jérémie 15, 16, « Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Nous savons dans quelles circonstances cette parole a été prononcée. Le roi Manassé avait fait disparaître la loi. Il n'en restait plus d'exemplaires. Et quand son petit-fils est monté sur le trône, Josias, il a fait réparer le temple, il l'a fait purifier. Et dans cette opération, on a découvert un exemplaire de la parole, de la loi. Le souverain sacrificateur, Jéhoiada, a fait porter au roi Josias. Et le roi Josias et Jérémie étaient à peu près du même âge, ils étaient encore jeunes l'un et l'autre. Et voilà Jérémie, qui était pourtant le fils d'un sacrificateur, si mes souvenirs sont exacts, n'avait pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il en avait eu connaissance encore par son père? La parole ne le dit pas. Mais voilà, tout d'un coup, on trouve la parole. Alors, il ne peut pas contenir sa joie. Tes paroles se sont-elles trouvées? Ces paroles enfouies depuis des années, disparues, annihilées, anéanties. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Et tes paroles ont été l'allégresse et la joie de mon cœur.
De Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi.
De Dieu n'ont pas été toutes révélées d'emblée. Bien, les choses révélées sont à nous et à nos fils, tout ce que Moïse avait donné de la part de l'Éternel, Les choses cachées sont à l'Éternel. Dans l'Évangile, le Seigneur dit que par des paraboles, il parle des choses qui ont été cachées dès avant la fondation du monde. Mais le peuple ne comprenait pas, puis il expliquait à ses disciples. Puis quand il quitte ses disciples, il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Quand l'Esprit de vérité sera venu, ce sera notre sujet demain, sauf erreur. » Dieu a révélé ses pensées progressivement, mais dans la mesure où il les a révélées, alors afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. C'est un verset important qu'on soulevait hier ou dans une conversation. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la parole? Il y a quand même encore bien des personnes qui n'ont pas la parole de Dieu, quoique aujourd'hui elle soit extraordinairement répandue. Dieu jugera chacun selon ce qu'il lui a confié, selon ce qu'il lui a révélé. Israël était appelé à pratiquer les paroles de cette loi, ce que Moïse avait révélé de la part de Dieu. Mais bien sûr, il n'y avait pas la pleine révélation. Nous l'avons maintenant, alors combien plus grande est la responsabilité?
Inspirer, c'est une opération qui passe de l'un à un tiers, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui a donné à de saints hommes, comme nous le voyons dans 2 Timothée 3,16, n'est-ce pas? C'est là, d'ailleurs en allemand je crois qu'on dit Eingebung, n'est-ce pas? Ça exprime cette pensée de quelque chose qui est communiqué.
De saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. On fait remarquer que ce verbe « pousser », c'est le même verbe qu'emploie Luc à la fin des Actes pour dire « notre navire était poussé », enfin quand ils ont fait naufrage, le navire était poussé par un vent violent. Le navire ne pouvait plus se gouverner, il était poussé. Ces hommes de Dieu ont été poussés par l'Esprit de Dieu à exprimer sa pensée. Ça n'est pas sorti d'eux-mêmes, ça n'est pas venu de leur propre pensée, de leur propre cerveau. Notre frère Forauf employait le mot « l'insufflation de l'Esprit de Dieu ». Mais alors, Dieu a respecté leur personnalité, comme notre frère l'a dit. Il ne leur a pas dicté des phrases et des mots qu'ils devaient simplement transcrire. Ils ont utilisé leur propre vocabulaire. Ils n'ont pas dépassé les connaissances de leur temps, les connaissances humaines de leur temps. C'est assez frappant, n'est-ce pas? On objecte. Bien sûr que la Bible n'est pas juste. Le soleil se lève, le soleil se couche. Je sais très bien que le soleil ne se lève pas, ne se couche pas, c'est la terre qui tourne. Mais c'est pas ça, mais par rapport à leur connaissance, par rapport à l'écrivain de l'Ecclésiaste, le soleil se lève et se couche. Dieu a respecté et le langage et la connaissance des gens du temps quant aux connaissances humaines, on peut dire. Mais alors il leur a insufflé ses pensées et les mots pour les exprimer, communiquant des choses spirituelles par des paroles inspirées de l'Esprit. Parlons en paroles inspirées de l'Esprit.
J'ai noté en rapport avec le sujet qui nous occupe présentement une pensée.
Et oui, et ceci, en jugeant de l'inspiration par la précision du compte rendu, on se trompe entièrement sur ce qu'on doit chercher. Le Saint-Esprit ne cherche pas l'exactitude qu'on demanderait pour reconnaître qu'un homme a dit la vérité. Le Saint-Esprit a toujours un but moral ou spirituel, la révélation de quelques principes éternels de vérité et de grâce. Toute circonstance qui ne se rapporte pas à ce but est omise, sans que l'esprit s'occupe de l'exactitude sous ce rapport-là. Mais l'exactitude morale n'en est que plus grande, et le tableau présenté à la conscience beaucoup plus parfait. Celui qui comprend le but du Saint-Esprit dans ce qu'il dit, saisit la perfection de la parole là où l'esprit de l'homme est arrêté par 1000 obstacles.
Est-ce qu'on ne peut pas le transposer aussi dans le fait que nous, lorsque nous transmettons le message, nous disons souvent « nous sommes des instruments » et c'est vrai. Mais des instruments, j'allais dire, organiques, c'est-à-dire nous recevons, nous transmettons, et pourtant nous restons nous-mêmes tout en devant soumis à l'influence de l'Esprit. C'est pour cela que nous le faisons toujours en tremblant, avec joie, avec certitude, mais avec un tremblement pour s'approcher de quelqu'un. Et tout à l'heure, plus tard, lorsque on a parlé de l'autorité, de la puissance de la parole, j'avais cette pensée qui est aussi une expérience. Lorsque une âme est travaillée, il est très important de lui faire lire les versets dans la parole, plutôt que de les citer soi-même. C'est très important que l'âme lise elle-même les versets, que la personne lise les versets.
Inspiré de Dieu et utile. Et on a bien précisé que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a donc conduit de saints hommes à écrire. Il les a conduits même dans leurs expressions, et c'est un point important. Sinon, il n'y aurait pas de fiabilité dans ce qui est écrit. Et tout est utile. Non pas seulement mes pages favorites, mais tout est utile. Même l'énumération d'une liste de noms est utile. Je n'en ai peut-être pas découvert moi-même l'utilité, mais elle est utile. Et je me souviens toujours de la conversion d'un jeune homme que nous avons eu parmi nous, que nous avons vu ici, à la lecture de la généalogie du Seigneur telle que nous la trouvons dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. Il cherchait, il s'interrogeait, il était allé jusqu'aux Indes pour connaître le mystère, ce mystère de l'homme. Et quand il a lu la généalogie du Seigneur qui remonte à Dieu, les Écritures ont été ouvertes pour lui, de Dieu, utile. On a pu écrire « L'inspiration des pensées peut être donnée à un croyant. L'inspiration des paroles fait le prophète. » L'inspiration des écrits fait l'auteur sacré. L'essentiel est de savoir que Dieu a donc inspiré les auteurs sacrés pour leur faire délivrer le message exact qu'il voulait pour l'homme. Et c'est ceci qui est capital. Il y a dans la parole, écrit par les auteurs sacrés, ce que Dieu voulait nous communiquer.
Seule la parole de Dieu, seule la Bible les est inspirée par Dieu. Il faut faire attention de ne pas mettre au même niveau de la Bible des commentaires, par exemple, tout beau qu'il soit, tout juste qu'il soit, en les considérant comme inspirés, en disant « mais c'est la parole de Dieu, ce n'est pas l'idée de celui qui a écrit ». Il faut faire beaucoup d'attention. Toute écriture, et c'est celle que nous avons dans les mains, et celle-là seule est la parole de Dieu. Un frère peut avoir un don de docteur, un don de prophète. Il peut transmettre un message de la part de Dieu. Il s'attend à la puissance de l'Esprit, bien entendu, mais que les autres jugent. Il n'est pas inspiré. Il n'y a pas une autorité ex cathedra, comme les catholiques disent. Il n'y a pas une tradition qu'on peut mettre au niveau de la Bible et dire, bon, c'est la même chose, c'est le même esprit. C'est Dieu qui a inspiré. Cela mine à l'autorité de la Bible, qui est la seule autorité. J'avais à cœur encore de lire, dans une autre ligne de pensée, un passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, le verset 21, « Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. » Je pensais tout à l'heure, quand on a parlé du Seigneur Jésus, je pensais au psaume 40, nous le connaissons très bien. Ta loi est au-dedans de moi, c'est pas la version David comme elle traduit. Ta loi est dans mes entrailles, au-dedans de moi. Tout est en lui la vérité, tout est en lui la parole de Dieu était en lui. En tant qu'homme, obéissant, fidèle, attaché à la parole de Dieu. Alors je pense à l'arche qui contenait, l'arche symbole de Christ, qui contenait les tables de la loi, les pierres, et puis la cruche d'or avec la manne, et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. C'était Christ. Christ qui est la vie, qui est la vie, la manne, qui est le chemin, c'est son intercession, et qui est la vérité, sont les tables de la loi. Lui est la vérité, lui est la vie, lui, il est le chemin, mais la vérité est au-dedans de lui.
Et aussi dans Zacharie 4, le verset 6, alors que Zorobabel a devant lui la puissance de l'ennemi, différentes choses qui sont comme une montagne, l'Éternel, par sa parole, fait dire à Zorobabel, milieu du verset 6, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il y a donc cette insistance de l'esprit, une fois de plus, dans ce passage. Et tout à l'heure, en entendant citer 2 Samuel 23, verset 2, nous avons donc là les dernières paroles du roi prophète. « L'esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue. » Je me disais, mais si nous désirions tous réaliser un tel passage, il y aurait certainement du résultat. C'est un passage qui doit nous faire en rire. Les dernières paroles de David, le doux psalmiste d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, sa parole a été sur ma langue. Et une autre pensée aussi dans tout ce qui nous occupe, dans ces journées, Jérémie 15 a été cité plusieurs fois déjà. Jérémie mange les paroles. Est-ce qu'il n'y a pas un appel à nous tous à avoir faim de ses paroles? Ézéchiel, le jeune sacrificateur, voit la gloire de Dieu, il entend la parole de Dieu, mais au début du chapitre 3 de son livre, il mange le rouleau, il reçoit dans son cœur, et après, l'Éternel l'établit sentinelle, sans qu'un un processus aussi, d'une façon toute pratique, qui est un appel.
Est-ce que nous n'avons pas cela dans le passage de la des chapitres des Éphésiens, au verset 13, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse.
ce travail profond de la parole à l'intérieur de l'individu scellé par le Saint-Esprit. Concernant aussi l'inspiration, bien faire attention à ceci, c'est que on ne peut pas dire que tous les mots qui sont contenus dans la parole étaient des mots inspirés. Quand Job dit par exemple « périsse le jour où je suis né », il ne l'a pas dit étant inspiré. Quand les méchants criaient contre le Seigneur, ce n'était pas par inspiration. Mais ceci nous est transmis par inspiration pour notre utilité.
Même la parole de Satan.
À propos de Job, n'est-ce pas? Tu l'as entouré d'une haie de protection. C'était vrai. Et comme vous le dites, ça a été transmis par inspiration. À propos du passage que Pierre vient de citer dans Éphésiens 1:13, il me semble qu'on a dans les trois verbes qui sont employés toute une leçon bien solennelle. Entendu, cru, scellé. Entendre la parole, la recevoir dans son cœur par la foi, et aussitôt le sceau du Saint-Esprit.
Les paroles prononcées par des méchants, par l'ennemi, tout ça dans la Bible, sont évidemment pas inspirées, mais le récit qui nous les rapporte est inspiré. C'est une méchante pensée de vouloir dire la Bible n'est pas la parole de Dieu parce que Satan parle dans la Bible, n'est-ce pas? Mais le récit que Dieu a voulu, les paroles qu'il a voulu faire retenir pour nous donner le contexte du récit, eh bien, ces paroles sont inspirées. Tout le livre de Job, c'est ça. Tous les discours des amis n'étaient pas inspirés par eux-mêmes, mais le récit que l'Esprit de Dieu nous rapporte, Dieu a retenu dans les évangiles certains incidents, pas d'autres, dans un autre évangile, un autre incident, où il est présenté sous un angle différent. Mais Dieu a voulu que ce soit présenté ainsi pour nous donner un tableau de son Fils sous un certain angle. C'est toujours la même personne, seulement c'est le serviteur, c'est le Fils de Dieu, c'est l'homme parfait, c'est le roi, le Messie. Alors c'est un autre éclairage, si l'on peut dire, mais c'est toujours la même personne.
On peut même dire que l'inspiration est en soi un miracle comparable à celui de la création. Dans la création, la parole, le verbe, le logos, avait sa vertu créatrice. Dieu a parlé et la chose s'est tenue. L'écriture, dans l'écriture, nous avons la parole non seulement vivante, mais vivifiante par l'Esprit. La parole créatrice dans la création et dans l'Écriture la parole vivifiante qui régénère.
Et du fait que ce que Dieu dit est vrai et s'accomplit, je pense à ce passage du chapitre 2 de la Genèse, où il est dit, et verset 16, « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu avait donné un ordre, il en avait donné les conséquences à celui qui allait l'enfreindre, de ce qui arriverait, et la parole de Dieu s'est accomplie. Et on a rappelé tout à l'heure que, quelque sorte, notre piété dépendait de notre obéissance à la parole de Dieu. Alors cet exemple-là nous montre combien il nous convient de nous soumettre, d'accepter la parole de Dieu et aussi en prenant garde à tout ce qui nous est dit dans sa parole de Dieu,
des conséquences qui peuvent arriver lorsque nous ne nous soumettons pas. Et la parole de Dieu est vraie. Bien sûr, il y a la grâce pour nous relever. Mais combien c'est sérieux de ce côté-là de prendre, d'être convaincu dans son cœur par l'esprit que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Et dans notre vie personnelle et dans tous nos rapports avec ceux que nous rencontrons et que nous savons qu'ils ne sont pas encore au Seigneur et que si nous ne sommes pas des témoins fidèles, eh bien les conséquences seront là pour eux. Et c'est effrayant d'un côté, mais de l'autre côté, ça nous fait réaliser le sérieux de cette parole.
Concernant aussi cette autorité, quelle attitude d'humilité que celle du Seigneur quand il disait, c'est Jean 7, verset 16, « Mes paroles ne sont pas miennes, mais de celui qui m'a envoyé. » Les paroles, ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Et que ceci se trouve dans la bouche du Seigneur montre de sa part déjà une grande obéissance et aussi donne à cette parole toute son autorité, son authenticité d'origine divine de celui qui m'a envoyé. Remarquons que à la tentation au désert, le Seigneur cite la parole, mais quand il la cite, Satan lui-même reconnaît que c'est bien l'Écriture. Et répondant dans une autre question, dans une deuxième tentation, il pourra citer l'Écriture lui-même.
L'inspiration, on est quelquefois surpris par les instruments dont Dieu se sert pour communiquer sa parole inspirée. Et nous avons deux cas dans la parole. Le cas de Balaam, qui est un faux prophète, qui avait été pressenti par le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël. Et à ce sujet, nous voyons, entre autres, dans le livre des Nombres, un passage tel que celui-ci. « Et l'Éternel vint à la rencontre de Balaam et mit une parole dans sa bouche. » Et Balaam ne put pas répondre au vœu de Balak, à qui il a dû dire « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et n'accomplira-t-il pas ?» Et un peu plus loin, nous voyons la bénédiction qu'il donne sur Israël. « Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. » Nous avons aussi un autre homme, un ennemi, du moins qui faisait partie des ennemis du Seigneur. Il s'agissait de Caïn, qui était souverain sacrificateur. Et Dieu se servit de cet homme pour exprimer ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Et quant à l'autorité de la parole, pour nous qui avons eu le privilège, et c'est bien un privilège qui devrait être beaucoup plus apprécié que nous le faisons, nous n'avons pas été amenés à avoir le moindre doute ni sur son inspiration, ni sur son autorité. Alors pour nous, le point qui est important ou qui devient important, c'est la façon dont nous acceptons cette autorité en pratique. Et c'est pour cela que Jacques pouvait dire, après avoir invité c'est ceux à qui il s'adressait, à recevoir avec douceur cette parole implantée qui avait la puissance de sauver nos âmes, il peut dire, mais mettez-la en pratique. Et c'est là le point essentiel pour nous.
Alors, il y a trois manières de reconnaître l'autorité de la parole et du Seigneur. Il y a la manière de l'esclave. Il doit obéir parce qu'il est esclave. On l'a commandé telle chose, il le fait. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Le maître a dit, on le fait. Il y a la crainte du châtiment. À Adam, un commandement est donné, saisit peut-être pas toute sa portée, mais il peut y avoir la crainte du châtiment. Il y a des chrétiens qui sont comme des esclaves, comme ceux qui sont sous la loi. Dieu a dit ça, 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 donc je fais ça, ça, ça. C'est bien, mais ils obéissent dans l'esprit d'un esclave. On peut obéir par crainte du châtiment. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, le Seigneur châtie pour amener à lui. Alors j'ai peur qu'il me châtie, alors je vais faire attention. Et alors, il y a le principe que le Seigneur lui-même a donné, Jean 14, 23, verset qui est tellement important. Et c'est ça l'attitude chrétienne devant l'autorité. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. L'obéissance par amour, l'obéissance du Fils envers le Père, c'est toute l'Épître aux Galates. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant, mais n'utilisez pas la liberté pour la satisfaction de la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre, dans les relations fraternelles. Pas parce que Dieu a dit « Tu dois servir tes frères, ben je vais les servir. » Mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'amour pour le Seigneur conduit à une obéissance qui n'est pas celle d'un esclave, qui n'est pas celle de la crainte, mais qui est celle de l'amour. Et alors il en résulte la communion. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Le Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors quand quelque chose nous paraît contraire à la parole et que l'Esprit de Dieu nous pousse à y renoncer, eh bien, en pensant à l'amour du Seigneur pour nous, parce qu'on aime le Seigneur, on y renoncera. Ou au contraire, on agira positivement par amour pour lui, pas par crainte de ce qu'il nous châtie, pas parce que, bon, c'est comme ça, on doit faire comme ça, mais par amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et d'autre part, au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, de garder la parole est le produit de l'amour en nous pour le Seigneur, mais en même temps démontre notre amour pour le Seigneur.
Dans la parabole de la bonne semence, dans les trois évangiles, nous voyons aussi les trois points importants qui sont soulevés maintenant. C'est dans le chapitre 13 de Matthieu, verset 23. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend. Alors, en Matthieu, c'est entendre et comprendre. Comprendre. À Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent. Alors comprendre, recevoir, et puis en Luc, nous voyons que c'est garder. Entendre, recevoir, et garder.
Ensemble, parle d'esprit renouvelé. À notre intelligence renouvelée, c'est ce que dit Matthieu. Recevoir, selon ce que dit Marc, c'est recevoir dans le cœur. Et dans Luc, c'est mettre la parole en pratique, la manifester dans sa marche. Voilà la pleine façon d'être illuminé, de recevoir la parole.
concernant l'autorité, ou plutôt la souveraineté de Dieu, quant au choix des instruments, nous avons vu qu'il s'est servi d'un Balaam, par contrainte, quant à Balaam, il s'est servi même de bien d'autres pour exprimer ce qu'il voulait communiquer. Je pensais à quelques prophètes. Dans l'apôtre Pierre, il dit, nous pouvons peut-être lire le passage dans la première épître de Pierre, qu'il n'était pas très au clair sur la signification des prophéties qui leur étaient confiées. Première épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 11. Nous pouvons lire depuis le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être de la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, etc. Au fond, ces prophètes qui parlaient ne comprenaient pas toujours le sens ou le but des paroles qu'ils prononçaient. Et comme nous le faisons, nous, aujourd'hui, quand nous avons à étudier une prophétie, par exemple, ils se posaient des questions, ils examinaient ce que Dieu leur avait dit pour tâcher d'en saisir le sens. Et on trouve en Daniel 12 une situation semblable. C'est tout à la fin du livre de Daniel, où il se trouve dans la même situation. Daniel 12, les versets 8 à 9, où Daniel dit ceci, et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses, donc il venait de lui être révélé. Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Il ne comprenait pas, et il l'avoue, je ne comprends pas ce que tu me dis. Eh bien, va. C'est pour plus tard. Et je crois que c'est notre frère, M. Ladrière, qui cite ce fait comme étant la preuve de l'autorité de Dieu et de sa souveraineté dans l'emploi des instruments auxquels il confiait sa pensée, et dans le choix des termes dans lesquels cette pensée était communiquée. Et c'est quelque chose de très beau, parce que cela fait ressortir la perfection de l'inspiration et la gloire aussi de Dieu qui se sert d'hommes auxquels il devait imposer en quelque sorte, je le dis avec révérence, sa parole. Il ne leur laissait pas le soin de choisir les mots, et il ne leur révélait même pas toujours la signification des communications qu'il leur faisait. C'est extraordinaire.
C'est aussi une preuve que le prophète ne parlait pas par son propre esprit. Parce qu'il avait parlé de son propre fond, il aurait compris. Mais n'ayant pas tout compris, ils ont compris des choses, mais pas tout. C'est parce qu'il le recevait, le transmettait.
Concernant aussi l'autorité
de la parole, quand Dieu a placé dans le jardin Adam et Ève, il leur a dit quelque chose concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan vient, et quelle est la première parole de Satan que nous trouvons dans les quoi Dieu a dit. Et au XXe siècle encore, les rationalistes viennent et nous disent quoi Dieu a dit. Mettre dans le cœur, dans l'âme, un doute sur l'autorité de ce que Dieu a dit. Quoi Dieu a dit? Et le croyant dit, oui, Dieu a dit. Et cela me suffit.
Et peut-être souvent, ne réalisons-nous pas que le fait que Dieu parle est une grande bonté de sa part. Ça nous paraît tellement évident comme chrétiens que Dieu parle et que Dieu ait parlé. Mais il y a un verset qui est très touchant tout au début de l'histoire de l'homme, tout au début de la Genèse. Dieu a parlé à Adam à Ève. Mais quand ils ont péché, est-ce que Dieu va se taire? Chapitre 3, verset 8. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait. Dieu ne se tait pas. Dieu veut entrer en relation avec l'homme, même pécheur. Et j'aimerais lire en Ésaïe 45, au verset 18. Ces deux versets, 18 et 19. Car ainsi dit l'Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établi, qui ne l'a pas créé pour être vide, qui l'a formé pour être habité. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé en secret dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la semence de Jacob, cherchez-moi en vain. Je suis l'Éternel parlant. Je suis l'Éternel parlant justice, déclarant ce qui est droit. Dieu parle. Et c'est un point supplémentaire de l'autorité de la Bible, car elle est parole de Dieu.
Tu désobéis, l'état qui s'ensuivit pour lui fut cette crainte, cette peur. Dieu l'appelle et Adam répond, j'ai eu peur. Et ceci nous montre la différence qu'il y a entre celui qui désobéit à la parole de Dieu et celui qui obéit à la parole de Dieu. Et on a cité ce passage tout à l'heure de psaume 119, verset 163. Quel contraste entre Adam et cet homme qui pouvait dire, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui a trouvé un grand butin.
Dans le livre de Josué, on se rend compte aussi que Josué était conscient de l'autorité de la parole de Dieu. Au chapitre 8e, au verset 34, il lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut pas une parole de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut devant toute la congrégation d'Israël et les femmes et les enfants et l'étranger marchant au milieu d'eux